5. 3 jours passèrent. Jeudi 3, car Percy se présenta 9 fois avec son chariot de viande à moitié cuite, mais c'était peut-être plus. Dans le crépuscule éclairé au gaz de Deep Maline, impossible à dire. Pendant tout ce temps, j'essayais d'assembler les morceaux d'une histoire que j'avais intitulée « La chute d'Empis » ou « L'ascension de Flight Killer » ou « L'avènement de la malédiction ». C'était un projet un peu idiot, basé sur les bribes d'informations que je possédais, mais ça permettait de passer le temps, une partie du temps du moins. Et si pauvre soit-elle, c'était quand même des informations. Premier élément, M. Bodditch parlait des 2 lunes qui s'élevaient dans le ciel, mais je ne les avais jamais vues s'élever. À vrai dire, je les avais à peine entreaperçues. Il parlait également de constellations qu'aucun astronome sur Terre n'avait jamais pu observer. Mais là encore, je n'avais fait qu'entrevoir les étoiles. À l'exception d'une étendue de ciel bleu éphémère à l'approche du cadran solaire, je n'avais vu que des nuages. À Empis, le ciel était une denrée rare, de nos jours du moins. Deuxième élément, M. Bodditch n'avait jamais mentionné Anna, et je pense qu'il l'aurait fait. Je n'avais jamais entendu le nom de la géante avant de rendre visite à la garde d'oie. Mais c'était le troisième élément qui m'intéressait le plus, celui qui suggérait le plus de choses. Monsieur Bodditch avait évoqué ce qui risquait de se produire si des habitants de notre monde découvraient le chemin qui menait à Empis, un monde certainement rempli de ressources non exploitées, l'or n'étant que l'une d'elles. Juste avant de comprendre qu'il était victime d'une crise cardiaque, qu'il avait demandé « Aurait-il peur, en parlant des pillards de notre monde, d'arracher à son long sommeil le terrible dieu qui règne sur ce lieu ?» D'après l'enregistrement, la situation était déjà grave à Empis lors de la dernière visite de M. Bodditch, même si Anna n'occupait peut-être pas encore son poste à cette époque. La cité de Lilimar était déjà déserte et dangereuse, surtout la nuit. Parlait-il par expérience, après une nouvelle expédition pour rafler de l'or, ou répétait-il les paroles de sources dignes de confiance? Woody, peut-être. Je pensais qu'il avait entrepris un ultime voyage alors que Anna n'était pas là. Sur ses fondations branlantes faites en allumettes, je bâtis un gratte-ciel de suppositions. Lors de la dernière visite de M. Bodditch, le roi des Galiens, prénommé probablement Yann, et la reine du même nom, prénom inconnu, avaient déjà été destituées. Au moins 5 de leurs 7 enfants avaient été tués. Léa s'était enfuie, avec tante Claudia et son oncle, ou son cousin Woody, j'avais oublié leur lien. Léa affirmait que son frère Eldon était mort lui aussi. Mais il était évident que Léa le préférait aux autres. Je le tenais de la bouche du cheval, ou plutôt de la jument. Se pouvait-il que Léa aime mieux le croire mort plutôt que d'imaginer qu'il était devenu « flight killer » Quelle sœur voudrait croire que son frère adoré était un monstre? Se pouvait-il qu'Eldon ait échappé à la purge, si purge il y avait eu, et qu'il ait réveillé de son long sommeil le terrible dieu qui règne sur ce lieu? C'était la plus plausible de mes suppositions, pensais-je, à cause d'une chose qu'avait dite Amet, depuis que Flight Killer est revenu du puits obscur. Ce n'était peut-être qu'une légende à la con, mais si ce n'était pas le cas, et si le frère de Léa était descendu dans le puits obscur, comme j'étais descendu dans un autre puits obscur pour arriver jusqu'ici, afin d'échapper à la purge ou dans un autre but? S'il était descendu dans la peau d'Elden et remonté dans celle de Flight Killer? Peut-être que le dieu du puits obscur lui dictait sa volonté. Ou bien Eldon était possédé par ce dieu, il était ce dieu. Hypothèse effroyable mais pas dénuée de sens compte tenu de la manière dont tous les habitants, les gens gris comme les gens saints, étaient éliminés lentement et douloureusement dans la plupart des cas. Certains éléments ne collaient pas, mais la plupart s'emboîtaient. Et je le répète, ça tuait le temps. Demeurait une seule question, à laquelle je ne pouvais apporter la moindre réponse. Que pouvait-on faire? 6. J'appris à connaître un peu mieux mes compagnons d'infortune. Mais comme nous étions obligés de demeurer enfermés dans nos cellules, il nous était impossible de nouer ce qu'on pourrait appeler des relations sérieuses. Frémy et Stooks formaient un duo de comiques, et ils s'intéressaient davantage à leurs traits d'esprit, ou ce qui passait pour tel, qu'à tout le reste, moi y compris. Domi était costaud. Malheureusement pour lui, il était affligé de cette toux de cimetière qui s'aggravait en position couchée. L'autre noir du groupe, Tom, était beaucoup plus petit. Il avait une voix magnifique, mais seul Eris réussissait à le convaincre de chanter. Une de ses ballades racontait une histoire que je connaissais, celle d'une petite fille qui rendait visite à sa grand-mère et découvrait en arrivant un loup qui portait la chemise de nuit de mamie. Dans mon souvenir, le petit chaperon rouge se terminait bien, mais la version de Tom s'achevait par un vers lugubre. Elle s'enfuit, mais il la rattrapa, et c'est en vain qu'elle lutta. À Deep Maline, les fins heureuses étaient une denrée rare. Le troisième jour, je commençais à comprendre le véritable sens de l'expression « devenir fou à force de tourner en rond ». Si mes compagnons étaient des individus sains, ce n'était pas pour autant des génies. Jaya paraissait plutôt éveillée, et un certain Jaka possédait un stock apparemment inépuisable de devinettes. Mais dans l'ensemble, leur conversation ressemblait à du bavardage sans queue ni tête. Je faisais des pompes pour favoriser la circulation sanguine, des squats, et je courais sur place.
« Regardez le petit prince qui frime !»
commenta Ayota un jour. Ayota était un connard, et pourtant j'éprouvais une certaine sympathie pour lui. Par certains côtés, il me rappelait mon ancien pote, Bertie Bird, perdu de vue depuis longtemps. Comme Birdman, Ayota n'essayait pas de cacher qu'il était une tête de con, et j'avais toujours admiré les bons chambreurs. Ayota n'était pas le meilleur que je connaissais, mais il était doué, et même si j'étais encore un bisu, je prenais plaisir à le provoquer.
« Regarde ça, aïe !»
Je plaçais mes mains à hauteur de ma poitrine, paume vers le sol. Et je les touchais en levant les genoux.
« Essaie d'en faire autant. Tu veux que je me blesse? Que je me claque un muscle? Que je me déchire quelque chose? Ça te plairait, hein? Comme ça, tu pourrais m'échapper au moment du 1 contre 1. »
« Le 1 contre 1 n'aura pas lieu, » répondis-je. « On va rester à 31. Flight Killer est à court de personnes saines. Allez, montre ce que tu sais faire. » Je levais mes mains presque jusqu'au menton et continuais à taper dans mes paumes avec mes genoux. Mes endorphines, malgré la fatigue, se montrèrent à la hauteur, plus ou moins.
« Si tu continues, tu vas t'ouvrir le cul en deux !»
dit Berne. C'était le plus âgé d'entre nous, presque chauve. Les rares cheveux qui lui restaient étaient gris. Sa remarque me fit rire et je fus obligé de m'arrêter. Amet, allongé sur sa paillasse, ricanait.
« On va arriver à 32 !» déclara Ayota. « S'ils en trouvent pas un autre bientôt, ils prendront Red Molly. Elle fera le 32e. Cette grosse chienne va bientôt rentrer de Cratchy. Et Flight Killer voudra pas attendre plus longtemps pour s'amuser. »«
Non, pas elle !»
s'écria Frémy.
« Dis pas ça !»
s'écria Stooks. Ils affichaient la même expression d'effroi.
« Je le dis !»
Ayota bondit sur les barreaux de sa cellule et se mit à les secouer. C'était son exercice physique préféré.
Elle est saine, non? Même si sa chaudasse de mer est tombée de l'arbre de la mocheté et s'est raclée la gueule en descendant.
Attends un peu, dis-je. Une idée horrible venait de me traverser l'esprit. Ne me dis pas que sa mère est...
Anna,
oui, répondit Amet.
Celle qui garde le cadran solaire et le trésor. Mais si tu as réussi à atteindre le cadran, ça signifie qu'il y a dû laisser aller. Flight Killer sera pas content.
Je l'écoutais d'une oreille. Je n'en revenais pas que Anna est une fille. Surtout, j'avais du mal à imaginer que quelqu'un ait pu coucher avec elle et engendrer cette progéniture. Reine Molly est une... géante ?
Pas autant que sa mère,
répondit Amit du fond du couloir.
Mais elle est baraquée. Elle est allée à Cratchy voir sa famille, au pays des géants. Quand elle reviendra, elle va te casser en deux comme du petit bois si elle t'attrape. Mais pas moi. Je suis rapide. Elle est trop lente. Tiens, là une devinette que Jacka connaît pas. Je suis grande quand je suis jeune, petite quand je suis vieille.
Qui je suis ?»«
Une bougie, » répondit Jaka. « Tout le monde la connaît, abruti. »
Je parlais sans réfléchir.
« Voici une bougie pour aller te coucher, voici une hache pour te décapiter. »
Silence. Puis Ayota demanda
« Bonté divine, où t'as entendu ça ?»«
Je sais pas. Sans doute que ma mère me le chantait quand j'étais petit. »
« Alors ta mère était une femme bizarre. Répète plus jamais ça. C'est un verre maudit. »
Au fond du couloir humide et suintant de Deep Malin, Demi se remit à tousser. Et à tousser. 7. 2 ou 3 jours plus tard, je suppose, car le temps dans un cachot n'existe pas, Percy va nous servir le petit déjeuner. Et cette fois, c'était un vrai petit déjeuner. Des chapelets de saucisses lancés entre les barreaux. 9 ou 10 saucisses par chapelet. J'attrapais le mien au vol. Amel laissa le sien tomber sur le sol crasseux, le ramassa et essuya les saucisses d'un air morne. Il le regarda un instant, puis le laissa retomber. Je notais l'effroyable similitude avec le comportement de Radar à l'article de la mort. Il regagna sa paillasse, ramena ses genoux contre sa poitrine et se tourna vers le mur. En face de nous, Ayota, accroupi derrière les barreaux, s'attaquait à son chapelet de saucisses par le milieu, en allant de droite à gauche, comme s'il grignotait un épi de maïs. Sa barbe luisait de gras autour de sa bouche.
« Allez, Amet, » dis-je, « essayez d'en manger au moins une. »«
S'il en veut pas, balance-les par ici, » dit Frémy.
Amet se retourna, se redressa et posa le chapelet sur ses genoux. Il me regarda.
« Je suis obligé de manger. »
« T'as intérêt, l'incapable !» dit Ayota.
Il ne lui restait déjà plus que 2 saucisses aux 2 extrémités.
« Tu sais ce que ça veut dire quand il nous file ça à bouffer ?»
Les saucisses avaient déjà refroidi et le centre était cru. Je repensais à une histoire que j'avais lue sur Internet, celle d'un type qui était allé à l'hôpital en se plaignant de maux de ventre. Les radios avaient montré un énorme ver solitaire dans ses intestins, à cause d'une viande pas assez cuite, précisait l'article. J'essayais de ne pas y penser, ce n'était pas possible, et commençais à manger. Je croyais deviner ce que signifiaient ces saucisses. Récréation en vue. Percy parcourut le couloir en sens inverse. Je le remerciai encore une fois. Il s'arrêta et me fit signe d'approcher avec sa main aux doigts soudés. Dans un chuchotement rauque, sortant de l'orifice en forme de larme qui lui servait de bouche, il dit
« Un fâche-feu ».
Je secouai la tête. « Je ne comprends
pas. »
Il recula en traînant son chariot vide. La porte se referma. Les verrous claquèrent. Je me tournai vers Amet. Il avait réussi à avaler une saucisse. Il mordit dans une autre, fut saisi d'un haut-le-cœur et cracha le morceau dans sa paume. Il se leva pour aller le jeter dans notre trou à merde. Je n'ai pas compris ce qu'il essayait de me dire. Amet prit notre gobelet en fer blanc et le frotta contre les vestiges de son maillot de corps, comme quelqu'un qui fait briller une pomme. Il retourna s'asseoir.
« Approche !»
Il tapota sa paillasse. J'allais m'asseoir à côté de lui.
« Maintenant, bouge plus. »
Il regarda autour de lui. Frémy et Stooks s'étaient réfugiés au fond de leur petit studio pourri. Ayota était absorbé par sa dernière saucisse qu'il faisait durer. Des autres cellules nous parvenaient des bruits de mastication, des claquements de lèvres et des rots. Ayant décidé apparemment que personne ne nous observait, Amet écarta les doigts, une chose dont il était capable car en tant que personne saine, il possédait de véritables mains et non des nageoires, et les passa dans mes cheveux. J'eus un mouvement de recul.
« Non, non, Charlie, bouge pas. »
Il gratouilla mon cuir chevelu et me tira les cheveux d'un coup sec, provoquant une pluie de saleté. Je n'avais pas vraiment honte. Après plusieurs jours passés dans une cellule, obligé de pisser et de chier dans un trou dans le sol, vous oubliez un peu votre amour propre. Mais j'étais consterné de découvrir à quel point j'étais sale. J'avais l'impression d'être Pigpen, le copain de Charlie Brown. Amet leva devant moi le gobelet en fer blanc pour que je puisse contempler mon reflet flou. comme un coiffeur qui vous montre votre nouvelle coupe de cheveux, mais le gobelet, en plus d'être incurvé, était bosselé, et c'était comme si je me regardais dans un miroir déformant à la fête foraine. La moitié de mon visage était énorme, l'autre ratatiné.
Tu vois ? Quoi donc ?
Ahmet orienta le gobelet, et je découvris que mes cheveux, sur le devant, là où il avait fait tomber la poussière, n'étaient plus châtains. Ils étaient devenus blonds, alors qu'il n'y avait pas de soleil pour les décolorer. Je pris le gobelet, il approchait de mon visage. Difficile à dire, mais il semblait que mes yeux avaient changé eux aussi. D'un marron presque noir autrefois, ils avaient pris une couleur noisette. Ahmet plaqua sa main sur ma nuque et m'attira vers lui près de sa bouche. «
Percy t'a dit, ne te lave pas les cheveux. » Je reculais.
Ahmet me dévisageait de ses yeux, marrons comme l'avaient été les miens, écarquillés. Il m'attira vers lui de nouveau.
« Tu es le véritable prince, celui qui vient nous sauver. »
8. Avant que je puisse répondre, les verrous de la porte du fond claquèrent. Cette fois, ce n'était pas Percy, mais 4 soldats de la nuit armés de leurs badines. 2 ouvraient la marche, bras écartés. Les portes des cellules s'ouvrirent en couinant.
« C'est l'heure de la récréation !»
s'écria l'un d'eux de sa voix bourdonnante d'insecte.
« Allez jouer dehors, les enfants !»
On sortit de nos cellules. Aaron, qui ne faisait pas partie de ce groupe de croque-mitaines, m'avait entraîné vers la droite. On partit vers la gauche, 31 prisonniers marchant 2 par 2, comme de véritables enfants qui partent en excursion. J'avançais en queue, seul. Les 2 autres soldats de la nuit fermaient la marche. D'abord, je crus que les crépitements sourds que j'entendais, comme un bourdonnement électrique de faible voltage, provenaient de mon imagination. Si je me fiais aux fois précédentes, lorsque j'avais été touché par la force enveloppante qui maintenait en vie ces êtres horribles, mais je me trompais. Les soldats de la nuit étaient des zombies électriques. Un super nom pour un groupe de heavy metal, pensais-je. Ahmet marchait à côté d'Ayota, qui s'amusait à donner des coups d'épaule à mon compagnon de cellule décharné pour le faire trébucher. Je voulus lui crier « Arrête ça !» Mais ce qui sortit de ma bouche, ce fut « Cesse donc !» Ayota se retourna vers moi, tout sourire.
« Qui t'a fait Dieu ?»«
Cesse donc !» répétai-je. « Pourquoi importuner un compagnon d'infortune ?» Ça ne ressemblait pas à du Charlie Reed. Un adolescent qui était plutôt du genre à balancer « Arrête de faire chier !» Pourtant, c'était bien moi qui avais parlé. Et le sourire d'Ayota céda la place à une grimace de perplexité. Il me gratifia d'un salut militaire à la britannique, le dos de sa grosse main plaqué sur son front bas, et lança
« À vos ordres, Major ! On verra si tu continues à me commander avec la bouche pleine de terre !»
Sur ce, il regarda devant lui.